Radio Okapi.
Présenté par Belinda Bosuma, voici le sommaire. 12 députés en lice pour remplacer Vital Kamerhe au perchoir de l'Assemblée nationale. Ils ont déposé leur dossier de candidature hier au secrétariat permanent de l'Union Sacrée. Dossier transmis ensuite à la haute autorité qui est le président de la République. Et c'est à Félix-Antoine Tshisekedi que revient le choix du candidat. Célébration hier 24 octobre du 80e anniversaire de l'ONU. Occasion pour le vice-gouverneur du Nord Kivu de saluer l'appui constant des Nations Unies dans plusieurs domaines. Occasion aussi pour le vice-gouverneur de l'Équateur de plaider pour que l'ONU maintienne les antennes de ses agences dans cette province. En effet, la fermeture du bureau de l'UNICEF à Mbandaka est annoncée pour fin novembre 2025. Et justement, à l'occasion de la journée des Nations Unies célébrée hier, Radio Okapi reçoit ce matin le chargé des programmes au sein de l'ONG Justice Plus. Bienvenue au Ketch, nous parle du travail de la MONUSCO et des agences du système de l'ONU en Ituri. Madame, Messieurs, bonjour. Course au perchoir de l'Assemblée nationale. 12 députés sans aucune femme ont déposé hier à Kinshasa leur dossier de candidature au secrétariat permanent de l'Union Sacrée pour la succession de Vital Kamerhe, selon un communiqué publié hier même par André Mbata, secrétaire permanent de cette plateforme politique du pouvoir. Ces dossiers ont été transmis à la haute autorité politique de l'Union Sacrée, à savoir le président de la République, pour décision. C'est la candidature choisie par Félix-Antoine Tshisekedi qui sera déposé à l'Assemblée nationale. Grâce Amzati nous décrit l'ambiance sur place.
C'est dans cette ambiance que le siège de l'Union Sacrée a été pris d'assaut par des candidats accompagnés par leurs sympathisants. Parmi ces 12 intéressés, 3 sont de l'UDPS Tshisekedi. Il s'agit de Doudou Dounia Mangamanga, Patrick Matata Makalamba et Crispin Bintoulé Mitono. 2 sont de l'UNC, parti de Vital Kamerhe, à savoir Aimé Boji Sangara et Jean Baudin Mayo Mambeke. Pour d'autres partis et regroupements politiques, nous avons Jean-Marie Kalumba Yuma, Didier Kamundu Batundi, Willy Mishiki Buhini, Christophe Mboson Kodia, Simon Moulamba Mputu, Singo Mamwanza Hamisi et Emile Saïdi Balikwisha. Sur le plan géopolitique, les candidats en lice viennent de l'Est, de l'Ouest et du centre du pays. En attendant la dernière décision du président de la République, Félix Tshisekedi, André Mbata rappelle que tous les candidats qui avaient déjà signé les actes d'engagement à l'Union Sacrée et de loyauté à la haute autorité politique se sont par ailleurs engagés à accepter son choix.
Et en ce qui concerne la crise sécuritaire et politique qui secoue le pays, souvent la RDC rejette catégoriquement le dialogue qu'il qualifie de monologue et de simulacre que tente d'imposer, selon ce mouvement, le régime de Kinshasa. Déclaration de Seth Kikuni hier à Kinshasa au cours de la conférence de presse de restitution des travaux du conclave des forces politiques et sociales tenues à Nairobi au Kenya du 14 au 15 octobre dernier. Le porte-parole de ces assises a peint un tableau sombre de la situation générale en RDC et qui exige comme réponse, selon lui, la tenue sans délai d'un dialogue inclusif sous l'égide de la CENCO et de l'ECC. On écoute Seth Kikuni dans ses propos recueillis par Jean-Désiré Kanyama.
La République démocratique du Congo est en crise. Une crise totale, multidimensionnelle, qui menace les fondements même de notre nation. Sur le plan politique, notre pays fait face à une crise de légitimité et de légalité. Sur le plan sécuritaire, le pays est morcelé. L'Est est en guerre. L'Ouest est en insécurité et en colère. Kinshasa suffoque. La vie quotidienne est devenue un calvaire. Avec une inflation galopante, un chômage endémique, le pays sombre chaque jour dans les embouteillages paralysants. Notre réponse citoyenne, politique, patriotique et démocratique à cette crise s'est fait pressante. Plus qu'une nécessité, elle est un impératif de salut public. Face à la crise, sauvons la RDC, joignant sa voix à celle des autres organisations sociopolitiques pour exiger la tenue sans délai d'un dialogue inclusif, sincère et sans tabou sous l'égide de la CENCO et de l'ECC.
Le renforcement de la coopération judiciaire entre l'Allemagne et la RDC, la promotion de l'état de droit et l'accompagnement allemand dans la lutte contre les flux financiers illicites au menu d'une séance de travail entre l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne en RDC et le ministre de la Justice, le ministre Guillaume Geffa et le diplomate Herbert Ingo, accompagné du consul allemand et chef de la coopération ainsi que la chef de projet de lutte contre les flux financiers illicites ont ensemble exploré des pistes susceptibles de permettre de lutter contre la problématique du blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en RDC. Le ministre de la Justice a exprimé la détermination du gouvernement congolais d'endiguer cette problématique en soulignant des efforts conjoints et engagements des deux pays. Et le diplomate allemand a réaffirmé l'engagement de son pays à soutenir les initiatives du ministère de la Justice en matière de la lutte contre l'impunité. Justice, ouverture hier à Kinshasa du procès sur le braquage de la Rawbank survenu le 16 octobre à la place Victoire. Le tribunal militaire garnison de Kinshasa Gombe a identifié les prévenus dans une audience publique. Ils sont au nombre de 7, dont 2 en fuite sont jugés par défaut. 5 ont comparu présents à cette première audience. Outre l'accusée principale Honorine Porsche, citoyenne allemande, 2 commissaires de la police gardiens de la Rawbank et 2 autres suspects ont décliné leurs identités. Ils sont tous poursuivis pour association des malfaiteurs, vol à main armée et terrorisme. Après l'introduction, le tribunal a renvoyé la cause à mardi prochain. Par ailleurs, après les braquages qui se sont succédés ces derniers jours à Kinshasa, le commissaire provincial de la police rassure que les forces de sécurité sont toutes en train de travailler pour mettre la main sur ces bandits. Il en veut pour preuve l'arrestation de certains individus présentés à la presse jeudi comme auteurs du braquage de Biboua à Lancélé. Le général Israël Kantou appelle la population à collaborer avec les forces de sécurité pour dénoncer ces bandits et permettre ainsi leur arrestation. Suivez un extrait de ses propos sélectionné par Babel Mpongo Massimango.
Je suis venu ici dans le cadre des enquêtes qui me sont en train de mener. D'aucuns ignorent les événements malheureux qui sont passés ces derniers jours au travers de la vie politique de Kinshasa. Nous avons appréhendé ceux qui sont devant nous. En attendant l'aboutissement des enquêtes, nous rassurons la population kinoise, en particulier et en général de la République démocratique du Congo, que la hiérarchie a donné le bon ordre qu'on puisse rechercher, arrêter et mettre hors d'état de nuire toute personne qui serait citée de long de près dans ces braquages. Nous sommes venus pour rassurer la population et leur demander d'être confiants à la police, au service de sécurité et de défense. Parmi les inciviques, quelques-uns sont déjà entrés nos mains et ceux qui sont à cavale, nous continuons à les poursuivre et nous demandons à la population de collaborer avec le service de sécurité si, par hasard, ils peuvent avoir connaissance de leurs cachettes ou de leurs liens de fuite, qu'ils n'hésitent pas de venir nous informer pour qu'on puisse mettre la main dessus et les mettre hors de nuire.
La journée des Nations Unies, c'était hier 24 octobre, journée où l'ONU a fêté ses 80 ans d'existence dans la ville de Beni, chef-lieu provisoire du Nord Kivu. Cette journée a été commémorée à la base de la MONUSCO à Mavivi. Nous sommes à une douzaine de kilomètres du centre-ville. La cérémonie a réuni le vice-gouverneur du Nord Kivu, les représentants des agences du système des Nations Unies, des organisations des jeunes et des femmes, ainsi que des acteurs de la société civile. Martial Papi Mukeba, reportage.
Sous un ciel clément et dans une ambiance empreinte de solennité, le vice-gouverneur du Nord Kivu a salué l'appui constant des Nations Unies dans plusieurs domaines. Le commissaire divisionnaire Louis Segon Karawa.
Je voudrais donc à cette occasion saluer la présence et l'engagement constant de la MONUSCO et des agences des Nations Unies auprès du peuple du Nord Kivu. Vos actions dans le domaine de la sécurité et de l'assistance humanitaire, de la santé, de l'éducation et du développement local sont des signes tangibles de solidarité envers notre population. Je rends hommage à tous les casques bleus, hommes et femmes qui servent ici parfois au prix de leur vie.
Pour sa part, Ali Garba, chef du sous-bureau intérimaire de la MONUSCO à Beni, a appelé à l'engagement de tous pour la paix dans l'est du pays.
Nous devons dire non à la guerre, mais aussi participer à la paix. Parce que sans la paix, on ne peut rien construire. Le thème de cette année, construisons l'avenir ensemble, mais on ne peut le construire qu'avec la paix.
Les responsables des différentes agences de l'ONU ont profité de l'occasion pour faire une exposition sur leurs actions dans la région de Beni, Butembo et Lubero. Lubero, Beni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
La journée des Nations Unies a aussi été célébrée hier dans la province de l'Équateur. À cette occasion, le vice-gouverneur de cette province a fait un plaidoyer pour que l'ONU puisse maintenir les antennes de ses agences dans sa juridiction. Ce plaidoyer survient après l'annonce de la fermeture du bureau de l'UNICEF à Mbandaka à la fin du mois de novembre 2025. Fermeture qui pourrait entraîner des conséquences négatives sur les programmes et la protection des enfants, en particulier des plus vulnérables, s'inquiète le vice-gouverneur de l'Équateur. Et en Ituri, sans l'appui de la MONUSCO et des agences du système des Nations Unies pour accompagner le gouvernement provincial, la paix relative que connaît aujourd'hui la région serait difficile à atteindre. L'étroite collaboration entre les deux parties a permis la reprise de la vie dans plusieurs localités des territoires d'Irumu et de Djougou. Déclaration faite hier par le gouverneur de l'Ituri, le général Johnny Luboyankashama, à l'occasion de la journée des Nations Unies. Il salue les sacrifices des casques bleus et des humanitaires qui interviennent parfois dans des zones dépourvues des services de sécurité et dans des conditions très difficiles. Le gouverneur de l'Ituri le dit au micro de Isaac Remoyope.
Depuis que je suis ici, ça fait 4 ans, nous avons travaillé dans une très bonne collaboration et coopération, de sorte que là où il n'y avait pas la vie ici à Ituri, vous avez vu la vie reprendre. Je parle ici de la RN27, quand vous arrivez à Kabarole, vous montez Nyakunde, vous allez à Boga, à Tchabi, vous allez à Amé, vous savez que tout le temps, ces deux localités étaient incendiées par l'ennemi. Aujourd'hui, nous avons une base là-bas à Boga et à Tchabi, et vous pouvez voir aussi en ce qui concerne les déplacés vers Boulé et tout, il y avait des attaques permanentes et des incendies dans les sites. Mais aujourd'hui, bon, c'est vrai qu'on peut avoir ici et là une petite insécurité, mais on a amélioré quand même la situation de ces déplacés-là. Il faut un sacrifice énorme, il faut un travail incomparable. Pensez-vous que si nous n'avions pas et la MONUSCO et les humanitaires, on allait avoir cette petite paix que nous avons? Donc c'est parce que nous travaillons ensemble. Là où des fois je ne suis pas, là ils y sont, et en permanence.
Notez qu'à l'occasion, les casques bleus et les agences du système des Nations Unies ont présenté au public une exposition de leurs activités menées en faveur des communautés locales. Dans l'actualité aussi, célébration hier de la journée internationale de la canne blanche, journée commémorée le 15 octobre de chaque année, mais le ministère congolais en charge des personnes vivant avec handicap a choisi de la célébrer hier vendredi. Lors de cette cérémonie organisée à l'Institut national de santé publique à Kinshasa, la représentante de la ministre Irène Esambo a insisté sur la nécessité de respecter la dignité des personnes vivant avec handicap en RDC. Reportage de Blaise Ndongala Mayanda.
À Kinshasa, la journée internationale de la canne blanche a été placée sous le thème « Inclusion, autonomie et dignité pour les personnes aveugles et malvoyantes, ensemble, marchons vers une société sans barrières ». Partie du palais du peuple avec leur canne blanche, symbole universel de respect, de vigilance et de liberté de déplacement, les personnes aveugles ont salué l'initiative de leur ministère de tutelle, comme indique le président du regroupement des non-voyants intellectuels du Congo, Israël Kabongo.
Pour nous, c'est une commémoration importante. Nous disons merci au ministère qui avait pensé de commémorer ces jours.
Le directeur général de l'Institut national des aveugles a quant à lui appelé ses pairs à soutenir la vision novatrice du président de la République dans ce secteur vital du pays.
Le non-voyant ne doit pas être celui qui attend seulement pour qu'on puisse lui donner, où il faut se battre et montrer qu'on a des compétences et on a des postes qu'on peut aussi occuper pour que ensemble nous puissions bâtir le pays.
Pour sa part, Marie-Louise Kandé, représentante de la ministre des personnes vivant avec handicap, à cette occasion, a appelé au respect de la dignité des personnes vivant avec handicap en s'appuyant de ne laisser personne de côté. Le ministère en charge des personnes vivant avec handicap ne ménage aucun effort pour mettre en place des projets structurants visant l'autonomisation de cette catégorie sociale.
Actualité internationale. En Côte d'Ivoire, le premier tour de l'élection présidentielle se déroule aujourd'hui 25 octobre. À la veille du scrutin hier, les derniers préparatifs étaient en cours du côté de la commission électorale indépendante. Les autorités, elles, sont sur leur garde pour assurer un maximum de sécurité pour le vote d'aujourd'hui. Au Soudan du Sud, la commission de surveillance de l'accord de paix révèle une importante dégradation de la situation sécuritaire du pays. De fin juillet à fin septembre 2025, les combats récurrents entre les signataires de l'accord de paix de 2018 dans 5 des 10 États ont amplifié l'impasse dans laquelle ce pays est plongé depuis quelques années. C'est la conclusion du rapport trimestriel publié jeudi par l'organe d'évaluation qui indique que 2025 est l'année la plus difficile pour le traité de paix au Soudan du Sud.
L'invité.
Les Nations Unies ont célébré hier 24 octobre le 80e anniversaire de la signature de la charte de l'ONU. En Ituri, la présence des casques bleus et des agences du système des Nations Unies a permis à des milliers de personnes déplacées de regagner leur village d'origine dans plusieurs entités des territoires de Djougou, Irumu et Mahagi. Comment les partenaires humanitaires nationaux apprécient-ils le travail de la MONUSCO et des agences du système des Nations Unies? Pour en parler, nous recevons Bienvenue Ouketch, chargé des programmes au sein de l'ONG Justice Plus. Il s'entretient avec Martial Kizabiamongu.
Monsieur Bienvenue Ouketch, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Vous êtes partenaire des Nations Unies depuis des années. Quelques mots, qu'est-ce que vous pouvez dire de l'impact de la présence des Nations Unies en RDC dans la vie de la population et surtout les cas de l'Ituri?
À cette occasion de la célébration de la journée des Nations Unies, je pense que c'est une bonne opportunité pour nous en tant que Justice Plus de donner d'abord une bonne impression de la présence des Nations Unies. Quand on parle des Nations Unies, beaucoup voient toujours la MONUSCO, la mission des Nations Unies pour l'observation et la stabilité en RDC, mais il y a aussi les agences qui sont là et les agences font aussi du bon travail. Mais si on doit vraiment résumer notre impression par rapport au travail des Nations Unies dans la stabilisation, surtout de la province de l'Ituri, nous pensons que vraiment leur bilan est positif. C'est un travail des titans qui sont en train d'abattre pour permettre à ce que la province de l'Ituri soit maintenue dans la stabilité pour qu'ils puissent permettre aux communautés, surtout aux personnes vulnérables, aux sinistrés, de se relever, d'être à mesure, de reprendre leur vie d'antan. Si nous devons voir par exemple la présence de la MONUSCO dans la province de l'Ituri, le contexte de la province de l'Ituri pour l'instant ne permet pas à ce que les agents des Nations Unies et surtout la mission ne puissent s'y retirer parce que les besoins en stabilité et en protection des civils sont encore grands. Et surtout même dans le cadre d'appui à l'autorité pour la restauration de l'autorité de l'État, ce sont des besoins qui sont encore grands et si nous voyons même du niveau de relèvement des populations, cela justifie encore la présence et nous pensons que la MONUSCO et les agences vont encore continuer à servir la population à travers leurs différents programmes dans la province de l'Ituri.
Oui, bienvenue au Ketch. Les Nations Unies font beaucoup de choses pour la population, vous venez de le dire. Comment expliquez-vous la désinformation qui entoure souvent leurs activités? Peu nombreux affirment que, par exemple, que certains humanitaires alimentent à nourrir les groupes armés. On parle aussi que la MONUSCO alimente ces groupes armés des médicaments. Vous qui travaillez sur le terrain avec l'ONU, que répondez-vous à ces allégations?
Cette désinformation est due au manque d'information ou à l'insuffisance d'information. Vous savez, les rumeurs sont des grands dangers qui peuvent facilement nuire à la bonne information. Les gens accusent les Nations Unies en général, à tort ou à raison, de beaucoup de choses, mais sans vérifier. Les actions des Nations Unies sont légion. Messieurs les journalistes, je peux vous citer quelques cas. Prenons dans le cadre des dialogues. Aujourd'hui, la stabilité intercommunautaire est maintenue à l'Ituri. Les Nations Unies sont pour beaucoup. La MONUSCO a organisé beaucoup de dialogues, appuyé beaucoup de dialogues intercommunautaires qui permettent à ce que les communautés se fréquentent aujourd'hui. Prenons le cas même des infrastructures liées à la paix. Il y a beaucoup de ponts, beaucoup de marchés qui sont des connecteurs en matière de conflits qui permettent à ce que les communautés puissent se fréquenter. Prenons le cadre de restauration de l'autorité de l'État. Sur le plan renforcement des capacités des forces armées, de la police, de l'administration locale et territoriale. Mais la MONUSCO fait beaucoup aux côtés des autorités locales. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas vraiment nier les bienfaits et les grandes activités qui font la MONUSCO et les agences parce qu'il y a un manque d'informations. Et le plus souvent, les gens qui fabriquent des rumeurs sont des gens qui ne veulent pas s'informer. Les sites des Nations Unies sont là, ils peuvent aller lire et s'informer. Nous prenons les agences, vous prenez UNICEF. Aujourd'hui, dans le cadre des luttes contre la malnutrition, des luttes contre les problèmes d'enregistrement des naissances, la question de la croissance de l'accès à l'éducation des enfants, les enfants qui sont associés aux forces et groupes
groupes armés. L'UNICEF travaille beaucoup. Vous prenez les HCR. Quand il y a déplacement des populations, les réfugiés, même si soudanais, qui sont au niveau des Harou. Mais nous avons vu comment HCR et ses partenaires ont travaillé. Donc moi, je pense que la communauté doit apprendre à aller chercher la bonne information.
Bienvenue au Catch pour terminer. Que devait faire maintenant les Nations Unies pour améliorer leurs interventions au profit de la population en Ituri?
D'abord, il faut communiquer. Des deux, les rapprochements avec les communautés, c'est très important. Les Nations Unies travaillent beaucoup avec les communautés, mais ils doivent renforcer ça. Ça signifie quoi? Lorsque vous travaillez avec les jeunes, lorsque vous travaillez avec les leaders communautaires, vous ne devez pas penser que vous avez travaillé avec les communautés. Il faut aller au-delà. Ça signifie, vous pouvez réunir les jeunes dans une salle aujourd'hui, croyez que tous les jeunes sont informés, et aller au-delà signifie multiplier des plateformes de communication pour rassurer la population. Tout cela, c'est pour bannir cette tendance à la désinformation qui est chaque fois en train de tenir l'image des Nations Unies.
Bienvenue au Catch. Merci.
Merci, messieurs les journalistes.
Le chargé des programmes au sein de l'ONG Justice Plus répondait aux questions de Martial Kizabiamungu. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.